France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Christelle Rebière.
La guerre en Ukraine semble entrer dans une nouvelle phase et dans un nouvel espace-temps, celui de la diplomatie. Alors certes, les armes ne se sont pas tues, le mot « cessez-le-feu » a même été soigneusement mis de côté, mais l'image d'hier était celle de l'unité aux côtés de l'Ukraine dans le bureau ovale. Simple image ou début du commencement d'un espoir de paix? Est-on à un tournant dans cette guerre qui dure depuis près de 2 ans et demi aux frontières de l'Europe? C'est le conflit le plus sanglant depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe joue sa crédibilité internationale, mais aussi et surtout sa propre sécurité. Alors, y aura-t-il vraiment une rencontre entre Poutine et Zelensky? Où et d'ailleurs, que pourrait-elle changer? Que fera Donald Trump qui a déroulé le tapis rouge au président russe à Anchorage ce week-end? La loi du plus fort peut-elle être écartée? Les questions territoriales pourtant cruciales n'ont pas été abordées. Alors, à quel prix une paix peut-elle être conclue? Le président ukrainien demandait hier à Donald Trump de faire la paix par la force, des éléments de langage très trumpien. Alors avec vous, on a envie ce soir de faire le point sur le moment qu'on est en train de vivre et de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'avenir. Si le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Inter. J'aimerais demander à nos invités s'ils ne pensent pas qu'en fait... De paix à l'horizon, nous ne sommes pas en train de vivre un nouveau Munich. De même qu'en 1938, nous avons laissé tomber la Tchécoslovaquie et les Sudètes. L'Europe a honteusement laissé tomber depuis 2 ans et demi, en se réveillant simplement il y a une semaine, l'Ukraine, qui va donc être dépecée. Donc je crains, je voudrais avoir l'avis des invités, si en plus du déshonneur, nous ne risquons pas d'avoir à moyen terme la guerre.
Merci Frédéric pour votre question. Alors pour vous répondre, en ligne avec nous Cédric Mas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien justement, observateur et analyste du conflit ukrainien. En studio, Marie Mollet du service politique de France Inter. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Merci d'être là, vous avez peu dormi. Vous avez accompagné Emmanuel Macron pour cette visite éclair à la Maison Blanche. Vous étiez dans l'avion présidentiel. Vous nous parlerez justement des convictions intimes du président, parce que c'est important. Avec nous aussi Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Et Guillaume Lascon-Jarias, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien militaire, professeur associé à Sorbonne Université. Donc la première question va être pour vous, Cédric Mas. Frédéric nous dit, est-ce que c'est pas un nouveau Munich ce qui est en train de se passer ?
Pour l'instant, on ne sait pas, mais en effet, il y a une des logiques qui avait été déployée par les puissances occidentales à Munich, qui était de gagner du temps pour se réarmer face à un ennemi qui était menaçant et donc de lui faire des concessions le temps que le réarmement qui venait d'être enclenché quelques mois et quelques années avant pour la France et quelques mois avant pour la Grande-Bretagne puisse se déployer. Et donc, en effet, il y a cet aspect-là. Mais, vous savez, l'histoire ne se refait jamais deux fois de la même manière, donc il faut rester très très prudent, surtout qu'on est encore loin d'un cessez-le-feu ou d'une paix, si tant est qu'on puisse l'espérer. Il y a beaucoup de propagande, de manipulation informationnelle, de conflits de récits depuis le début de cette invasion et même avant. Et donc, dans les deux camps, on joue de ces différents récits. Et parmi ces récits, il y a la résonance avec ce que les puissances occidentales avaient fait pour tenter d'apaiser, la théorie de l'apaisement, les velléités expansionnistes du Troisième Reich.
Le parallèle est pertinent pour vous aussi, Patrick Martin-Jeunier?
Écoutez, moi je pense qu'il faut se méfier des comparaisons historiques, oui. Nous ne sommes plus du tout dans la même période. Vous savez, moi j'ai connu des Allemands, des Sudètes réfugiés en Allemagne, et ces gens-là étaient très contents que leur région ait été annexée, ce qui veut dire qu'en Ukraine, il y a aussi des gens qui sont très très incontents dans le Donbass d'être annexés par la Russie. C'est terrible de dire ça, mais la réalité, elle est là. Donc nous ne sommes pas encore à Munich, l'Europe a beaucoup réarmé, l'Europe a énormément aidé, il y a une coalition des volontaires, nous n'avons pas abandonné l'Ukraine. Mais ce qui est certain, ce qui est très inquiétant, et là-dessus je rejoins Frédéric, votre auditeur, c'est que Donald Trump, Trump attend en contrepartie d'une aide et d'une garantie de sécurité que des concessions territoriales soient faites. Et oui, on peut faire une comparaison avec les Sudètes de la Tchécoslovaquie avant la Seconde Guerre mondiale et les populations russophones du Donbass, voire de la Crimée, dont certaines seront nettement contentes d'être rattachées à la Russie. Oui, il y a une comparaison, mais je ne pense pas que les Occidentaux, l'Europe, aient baissé les bras face à Vladimir Poutine. On verra bien ce qui sort des futures négociations.
Oui, bien sûr, on n'en est qu'au début. Vous la faites aussi, cette comparaison, Guillaume Lascongeariaz?
Oui, alors je la trouve beaucoup plus parlante que ce que l'on trouve aussi ailleurs, à savoir comparer par exemple ce qui est en train de se passer à Yalta.
Oui. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup les deux ce week-end. Oui.
Oui, tout à fait, mais je pense que Munich a peut-être plus des résonances. La différence effectivement principale, c'est que pour l'instant, les Européens restent aux côtés de l'Ukraine, alors qu'on sait bien que bien qu'alliés, justement, et les Français et les Britanniques, pour acheter du temps, avaient accepté de, comme on dirait en anglais, jeter sous le bus la pauvre Tchécoslovaquie de Beneš. Donc, on peut voir effectivement cette comparaison, mais comparaison effectivement n'est pas raison. Oui. Et la manière dont les Européens apparaissent encore aujourd'hui soudés aux côtés de Zelensky et soudés finalement en discussion plus que finalement derrière Donald Trump démontre quand même qu'on a quelques limites dans la comparaison.
Et les Européens sont apparus effectivement soudés hier dans le bureau ovale, Marie Mollet.
Oui, exactement. Et en fait, l'image qui peut-être résume ce sommet, ce sont ces leaders réunis autour de cette table en bois laqué, Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Tout le monde est autour de la table, effectivement. L'image est belle. Comme le disait notre intervenant, on ne sait pas si on a un visage des États-Unis et d'un camp transatlantique unifié ou s'il s'agit là de discussions. Et puis, on a les Européens qui portent les demandes de Kiev avec un cessez-le-feu pour le chancelier allemand Friedrich Merz, une réunion quadrilatérale, c'est la demande d'Emmanuel Macron. On a Donald Trump qui est là, qui écoute. Que va-t-il faire de ces demandes? Eh bien, pour l'instant, le cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour. Il a répété à plusieurs reprises hier, ce n'est pas nécessaire. La réunion quadrilatérale, eh bien, il n'en est pas question à ce stade dans l'agenda qui a été fixé par Donald Trump. D'abord une réunion bilatérale, puis ensuite éventuellement trilatérale. Donc on a cette photo, l'image est belle, elle était nécessaire, les images... Ça compte. Maintenant, quel fruit de cette rencontre? Eh bien, en réalité,
concrètement,
il ne faut pas être trop définitif, mais ça reste modeste. C'est en tout cas le pendant du sommet de l'Alaska où il y avait aussi beaucoup d'images, peu de résultats concrets. Voilà.
C'est un peu à l'image du titre qui est à la une du Monde aujourd'hui et qui m'a frappée. Le titre, c'est « L'Europe s'efforce de contenir Trump ». On voit bien que tout ça est extrêmement fragile, Patrick Martin-Jeunier.
Oui, tout à fait. Cette image des dirigeants européens à la Maison Blanche est encourageante, mais on voit bien que Donald Trump, en fin de compte, veut imposer sa paix avec Vladimir Poutine. Oui. Je rappellerai une seule chose, c'est qu'en allant à Anchorage, en Alaska, il a dit dans l'avion qu'il amenait à ce sommet avec Poutine qu'il n'avait pas l'intention de se laisser dicter sa conduite par l'Europe. Donc, il a rencontré tout le monde, il a fait des sourires à tout le monde, il a flatté tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement versatile et naturellement que l'Europe, pour l'instant, est écartée. Est-ce qu'elle jouera un rôle? Nous verrons bien. Je remarquerai simplement qu'hier, on a beaucoup parlé de garantie de sécurité. Donald Trump a signé un contrat de 90 milliards de dollars d'armement avec l'Ukraine. Donald Trump a dit que jamais il n'enverrait des troupes sur place, mais que finalement, si l'Europe voulait en envoyer à travers sa coalition des volontaires, alors, elle le pourrait. Mais aujourd'hui, c'est la difficulté. Personne n'a parlé de concessions territoriales, alors même que l'on sait que c'est le cœur du sujet.
Mais pour autant, l'Europe n'est pas écartée, Marie Mollet. C'était la crainte au départ. Hein. On a peur que Volodymyr Zelensky n'y soit pas et que l'Europe n'y soit pas. Au moins, l'Europe est un petit peu dans le jeu, même si Donald Trump fait semblant d'écouter.
Oui, alors en fait, en réalité, il me semble que pour les délégations européennes, il est compliqué de comprendre à quel point Donald Trump fait semblant ou ne fait pas semblant. Parce que notre invité nous parlait à l'instant de la versatilité. Et ça, je pense que c'est un point qui est une difficulté pour les délégations européennes. C'est que Donald Trump dit des choses et puis effectivement, ensuite, change d'avis. Le cessez-le-feu, on l'a vu évidemment, il l'avait défendu, il partait à Anchorage pour défendre un cessez-le-feu, il a changé d'avis. Les sanctions, qui est un point très important du point de vue de Paris, les sanctions secondaires, Donald Trump en avait parlé, c'est-à-dire des sanctions non pas sur Moscou, mais sur les pays qui achètent du pétrole russe, il n'en a plus été question. Et donc, cette espèce de versatilité, mais dans un sens comme dans l'autre, rend aussi le travail compliqué pour les Européens. L'analyse qui est faite à Paris notamment, c'est de dire il y a des tensions à l'intérieur de l'administration américaine. On voit des expressions, par exemple, du secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est beaucoup plus conciliant vis-à-vis de l'Europe que ne l'est pour Donald Trump, par exemple, dans ses expressions. Donc, comment naviguer avec ces changements de pied successifs, ça rend aussi, évidemment, le travail diplomatique compliqué pour les Européens.
D'où la prudence extrême d'Emmanuel Macron, vous pouvez en témoigner.
Oui,
Marie,
alors effectivement,
vous
c'était
étiez dans
absolument... Avant cela, son expression publique à l'issue du sommet, ce qui est absolument frappant, c'est son immense prudence. D'ailleurs, il est moins optimiste que ses collègues européens sur deux points, alors que Donald Trump venait d'annoncer une rencontre, dont on ne sait pas encore tout à fait si elle se fera, mais en tout cas, il venait d'annoncer une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. La réponse d'Emmanuel Macron, c'est d'abord de dire, de douter de la bonne foi, en somme, de Vladimir Poutine et de sa volonté de faire la paix. Donc, extrême prudence là-dessus et extrême prudence aussi sur les garanties de sécurité. C'était l'objectif numéro un des Européens. Ils sont partis à Washington pour arracher ces garanties de sécurité. Et effectivement, les termes employés par Donald Trump sont vagues. Il parle de coordination, d'implication, mais on n'en a pas le détail.
Ce soir, il parle d'envoyer des troupes... certainement pas des troupes au sol, ça c'est clair, mais au moins qu'il y ait une défense aérienne. Qu'est-ce que vous en dites, Guillaume Lascon-Jarias ?
Alors, quand on parle de garantie de sécurité, il y a un tel panel, véritablement, de mesures qui peuvent être prises que il faut finalement essayer de démêler un petit peu ce que les Européens souhaitent, ce que les Américains pourraient apporter. Et il faut commencer par remonter un petit peu dans le temps, parce que ces questions de garantie de sécurité, en réalité, on en parle depuis au moins le mois de février. C'est-à-dire, en fait, il semble bien qu'on ait perdu entre 4 et 6 mois, au rythme d'ailleurs, d'autres, finalement, modifications politiques et géopolitiques. Ces garanties de sécurité, en un mot commençant, elles définissent à, finalement, donner à l'Ukraine les moyens de préserver, une fois un cessez-le-feu obtenu, ou encore mieux, une paix obtenue, à condition qu'elle soit un petit peu efficace et pas une mauvaise paix, d'avoir les garanties qu'elle puisse être indépendante et protégée. Et pour ça, les Européens, finalement, demandent deux choses. Ils demandent à avoir le soutien américain, ce qu'on appelle le backstop, c'est-à-dire la capacité pour les Américains d'intervenir au cas où eux-mêmes ne pourraient pas le faire. La deuxième interrogation,
rien ne peut se faire sans les Américains.
Très difficilement. C'est-à-dire que, en termes de troupes à déployer, en termes de moyens militaires à déployer, l'Europe peut essayer effectivement de faire. On a de gros contributeurs. On sait que la France et la Grande-Bretagne pourraient servir de ce qu'on appelle de nation cadre. Mais derrière, les moyens en termes de tout simplement d'hommes et de ressources humaines à envoyer restent bien insuffisantes pour un front qui fait ne serait-ce que 1300 kilomètres.
Bonsoir Alain.
Bonsoir France Inter, merci de me prendre. Moi je suis un simple auditeur citoyen français qui est passionné par ce qui se passe actuellement parce que le monde est en train d'être un tournant de son histoire. Je crois qu'il faut, enfin c'est mon point de vue, je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse berner une nouvelle fois par ce qu'il est en train de se passer. Comme a dit Madame Mollet, c'est vrai que la photo est belle parce que Monsieur Trump qui reçoit effectivement les Européens, les Zelensky, et qui pour une fois ne le méprise pas, ne l'humilie pas, c'est déjà une très belle chose. Mais je pense qu'en contrepartie, je crois que personne n'est dupe autour de vos invités sur le fait que c'est M. Poutine qui tire les ficelles de ce jeu. C'est lui qui a les cartes en main. Et je pense que M. Poutine se contrefout, mais royalement, c'est pas bien de parler comme ça, il se contrefout royalement de ce qui est en train de se passer. Il domine le jeu depuis des années. Il a l'intention de continuer et même, je pense, d'appuyer encore là où ça fait mal. Et je ne vois pas les tergiversations des Européens ou même de M. Trump qui change d'avis et change souvent de chemise et de casquette, donc il change très souvent d'avis. Et je ne vois pas ce qui peut demain contraindre M. Poutine à être coopérant sur quoi que ce soit. Alain, le philosophe, parlait de pessimisme, de raison, d'optimisme, de la volonté. Je crois que les Européens ont effectivement mis en exergue qu'ils ont envie que les choses évoluent. Je crois qu'on peut les saluer tous. Hein. Mais quand M. Macron dit que M. Poutine est un ogre, je crois qu'il est totalement dans le vrai.
C'est quand même pas n'importe quelle phrase, absolument. Merci Alain d'être intervenu. Marie Mollet, effectivement Emmanuel Macron qui parle de Vladimir Poutine comme un ogre et qui va continuer à manger, en fait.
Oui, en tout cas...
Ça, ce sont des mots forts.
C'est des mots très forts, effectivement. Et en fait, l'idée, c'est que, en réalité, la crainte, en tout cas, du côté des Européens et de Paris, c'est que, en fait, ce soit une simple manœuvre dilatoire. Une simple façon pour Vladimir Poutine, le fait d'avoir accepté, même si c'est encore incertain, cette rencontre avec Vladimir Zelensky, que ce soit une façon de gagner du temps, tout en continuant de bombarder, comme on l'a vu pendant le sommet à Washington, et de continuer de repousser encore la ligne de front. En réalité, il y a là, c'est une différence de lecture majeure entre les Européens et Donald Trump, et notamment entre Emmanuel Macron et Donald Trump. C'est qu'Emmanuel Macron le répète de façon incessante, il dit... Pardon, Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Il veut la reddition de l'Ukraine,
il veut la capitulation.
Quand Donald Trump dit non, il veut un deal, et d'ailleurs cette séquence a été captée un peu par erreur lors du sommet, il s'adresse à Emmanuel Macron hors des micros et dit mais si, je t'assure, c'est that's crazy, mais il veut un deal, c'est fou, mais il veut un deal, je t'assure. Donc là, il y a effectivement une différence d'appréciation entre sur le sujet de la bonne foi de Vladimir Poutine, et en tout cas Donald Trump a l'air dit-il, en tout cas persuadé, c'est ce qu'il a dit lors du sommet.
Cédric Mas, vous qui êtes historien, à votre avis, il veut la capitulation, effectivement, Vladimir Poutine, on est bien d'accord, c'est bien lui qui a toutes les cartes en main, mais est-ce qu'il cherche la capitulation de l'Ukraine ou un deal comme semble le croire Donald Trump ?
Alors, je suis pas dans la tête de Vladimir Poutine et c'est sûrement pas la casquette d'historien, les travaux d'historien qui peuvent le permettre de répondre à cette question. En revanche, pour revenir à ce qui a été évoqué sur les garanties de sécurité, donc Guillaume Lascongeras faisait remonter il y a 2-3 ans la question. Moi, je peux même la faire remonter. Il sera d'accord avec moi, je pense, jusqu'en 1994, parce que les garanties de sécurité données à l'Ukraine, elles ont déjà été données par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Russie en 1994, et elles n'ont
vous
pas...
Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur 1994.
C'est le mémorandum Budapest qui garantissait à la fois la reddition des armes nucléaires et des équipements autour, hein, parce qu'on parle des armes nucléaires, évidemment, les Ukrainiens ne pouvaient pas les utiliser,
les bombardiers stratégiques. Les Ukrainiens donnaient leurs armes nucléaires, moyennant quoi
étaient garanties par quatre pays.
Russie.
États-Unis, Royaume-Uni, France et Russie. Et on le voit qu'aucun de ces quatre pays n'a fait respecter ces garanties bien plus tard, dès 2014, avec le coup de force de la Crimée. Donc, et puis, deuxième chose, la photo est belle des Européens unis, ça c'est très beau, mais enfin, les Européens ont déjà montré leur union et leur détermination, en parole en tout cas, et en photo, et en sommet, mais en acte, on a beaucoup plus de mal à la voir, notamment se réaliser sur le front, tout simplement parce que nous sommes désarmés. Hein, le problème, il est là, c'est que nous ne pesons pas suffisamment lourd, surtout sans les Américains. Et surtout, quand vous comparez la rencontre Lavrov-Poutine avec Trump en Alaska, où les Russes sont arrivés quasiment en se moquant de Trump, enfin Lavrov est arrivé avec un t-shirt, URSS, Poutine a pris la parole en premier à la conférence, enfin à l'intervention de sortie, alors que normalement c'est toujours le dirigeant du pays hôte qui prend la parole en premier, enfin, alors que nous derrière, on a des photos où on se montre très carré. Tout sourire, mais surtout en train d'essayer de flatter quelqu'un qui n'est pas objectif, quelqu'un qui a d'ores et déjà intégré une grande partie du récit russe, de la propagande russe, des objectifs de guerre russe, et dont l'objectif est très clair, il n'est pas versatile, Trump. Il veut une paix pendant son mandat, peu importe.
Il veut un deal, en fait.
Il veut une paix pendant son mandat pour tenter de viser le prix Nobel de la paix. Hein. C'est son obsession. Peu importe que cette paix, à la fin de son mandat, ne se poursuive pas, si tant est qu'il quitte le pouvoir, mais c'est un autre sujet auquel je n'entends pas développer.
Ça fait l'objet d'une autre émission.
Exactement, auquel je participerai parce que je ne suis pas compétent sur la politique américaine. Mais deuxième chose, il veut aussi un deal pour derrière pouvoir lever les sanctions économiques et faire du business avec la Russie. Et ça, Poutine l'a bien entendu, et ça arrange Poutine aussi, puisqu'on arrive au moment où l'économie russe est de plus en plus mal. Les sanctions économiques, dont on nous a dit qu'elles ne faisaient pas effet, elles commencent vraiment à produire des effets structurants sur le long terme, et donc on arrive à un moment clé, à un tournant aussi bien militairement sur le front pour les Ukrainiens, mais aussi économiquement pour la Russie. C'est pas neutre que Vladimir Poutine ait accepté de le rencontrer, sans trop rabaisser ses prétentions d'ailleurs. Donc ça, l'objectif, il est très clair, et il va le poursuivre, peu importe les sourires, les câlineries que vont lui faire les Européens. Donc en réalité, aujourd'hui, le roi est nu, nous sommes seuls, on ne peut pas compter sur les États-Unis parce que les garanties, on nous a parlé à un moment donné des garanties équivalentes à l'article 5, mais ça serait terrible, imaginez
l'article
les
États-Unis... L'article 5 de l'OTAN,
qui permet, excusez-moi, de à partir du moment où une des nations qui est membre de l'Alliance est attaquée, aux autres de venir à son aide. Et bien, imaginez ces garanties équivalentes qui ne seraient pas actionnées si la Russie attaque à nouveau ou agresse à nouveau en utilisant tous ces moyens de guerre hybride, notamment l'Ukraine, et bien là, ça voudrait dire que l'OTAN n'a plus aucune vraisemblance, n'a plus aucune force et aucune capacité. En réalité, la situation, c'est une question de volonté politique, donc il y a les propos, les paroles. Moi, j'ai beaucoup apprécié les paroles du président Macron qui sont très lucides, mais enfin, passons aux actes à un moment donné. Et là, on est vraiment au début d'un réarmement, et surtout, même en France aujourd'hui, on laisse prospérer des courants qui sèment la division, qui cherchent à saper cet effort de réarmement, pour plein de raisons et plein de prétextes différents, qui cherchent à nier ou à diminuer la menace russe qui est réelle, et alors que même s'il devait y avoir une paix en Ukraine, ça ne serait aujourd'hui que partie remise, parce que l'armée russe a même aujourd'hui des capacités qu'elle n'avait pas il y a 5 ans de se reconstituer beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, compte tenu des pertes effroyables qu'elle a subies lors de ce conflit et qui n'est pas terminé.
Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir. Voilà, ma question, c'était ça concerne les garanties de sécurité.
Mais oui, on était dessus, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on vous entende.
Voilà. Donc moi, je voulais savoir en quoi ces garanties de sécurité qui sont en cours de préparation, qu'est-ce qu'elles apporteraient par rapport à l'article 5 de l'OTAN?
Alors, on va poser la question à Guillaume Lascon-Jarias.
Alors justement, y a déjà une vraie différence, c'est-à-dire que ces garanties de sécurité, il faut quand même le préciser, ça pourrait être pareil que cet article 5 du traité de l'Atlantique Nord, donc Cédric le rappelait, c'est ce qu'on appelle un peu l'article des mousquetaires, c'est-à-dire si une nation est attaquée, eh bien les autres doivent venir théoriquement à son
secours,
aide.
Oui.
Et en réalité, alors il faut d'abord que ce soit une agression armée, et c'est ça qui est important, puisque si on a ce qu'on appelle une guerre hybride, une guerre sous le seuil, eh bien, on n'est pas certain de pouvoir le déclencher. Et puis ensuite, parler d'article 5, alors que, en même temps, et Trump l'a bien rappelé, les États-Unis refusent que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est soit minorer le rôle de l'OTAN, soit pondérer, là encore, le rôle de ces garanties de sécurité. Dit autrement, la vraie différence, et je m'interroge de la même façon que votre auditrice, parce que on a une forme d'ambiguïté non résolue. Des garanties de sécurité qui ne sont pas suffisamment robustes, eh bien, ne peuvent pas dissuader la Russie, et on ne donne pas à l'Ukraine les moyens de rejoindre l'OTAN. Il faut quand même souligner une chose qui est importante, c'est que de toute façon, les alliés, même s'ils ont offert un chemin à l'Ukraine pour qu'elle rejoigne dans un délai qui d'ailleurs n'est jamais précisé, l'OTAN se trouverait eux-mêmes dans une situation très compliquée si on ouvrait cette option-là, parce que dans les critères d'adhésion à l'OTAN, il est aussi marqué que théoriquement, un pays peut adhérer une fois simplement qu'il a résolu de manière pacifique ses dissensions territoriales avec un adversaire. Et on sait bien que là, on revient sur le cœur de ce qui fait les tensions entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, c'est les territoires qui ont été illégalement annexés et occupés par la Russie.
Alors, il y aura une réunion demain des chefs d'état-major de l'OTAN. Quel rôle peut avoir l'OTAN, justement, dans les jours, dans les semaines qui viennent, Guillaume Lascon-Jarias?
Alors l'OTAN, en fait, a déjà eu un rôle. L'OTAN, d'abord, s'est structurée aujourd'hui pour organiser et coordonner l'aide des différents alliés en direction de l'Ukraine. C'est un geste qui est assez important parce que pendant longtemps, c'était piloté par les États-Unis, mais de manière un petit peu comme ces fameuses coalitions de volontaires sans véritablement secrétariat. Là, l'OTAN fait un peu le secrétariat de l'aide militaire en lien avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait, on met en commun ce dont les Ukrainiens ont besoin et ce que les alliés européens peuvent apporter. Donc en fait, c'est une forme de manière très brutale, une forme de centrale d'achat. Et une centrale de distribution. Et c'est essentiel parce que la coordination, notamment d'un point de vue logistique, est très importante. Mais ces chefs d'état-major, donc, ils vont travailler là-dessus. Ils vont aussi travailler sur ce dont les Ukrainiens ont le plus besoin, la protection de leur ciel et de leurs infrastructures énergétiques, la capacité à toujours pouvoir s'armer et avoir des équipements efficaces contre les attaques russes, et puis peut-être aussi des formations. On sait aussi que l'Union européenne joue un rôle là-dessus qui n'est pas négligeable pour former toujours les soldats ukrainiens et les brigades ukrainiennes pour le combat qu'elles mènent sur le front.
Mais on peut vraiment envisager des troupes au sol en termes de garantie de sécurité, sérieusement ?
Alors, c'est un sujet de dissension, notamment entre alliés. La France avait été relativement
allante. La France qui est plutôt favorable, me semble-t-il.
Oui, mais alors, il y a troupes sur le terrain et troupes sur le terrain, j'allais dire. C'est-à-dire que ce ne seraient pas des troupes déployées en première ligne, ce serait plutôt en fait des unités qui seraient dans la profondeur stratégique ukrainienne, plutôt d'ailleurs dans l'ouest du pays, qui seraient destinées en fait à prendre à leur charge ou à donner directement à l'armée ukrainienne des formations, un soutien logistique, un soutien sanitaire, en fait, tout ce qui pourrait libérer de la matière et des équipements et des hommes pour justement surseoir aux menaces qui pèsent directement sur le front. En revanche, il y a un vrai sujet.
Il ne s'agit pas d'être sur le front, que ce soit bien clair. Hein.
Non, probablement pas. Et puis, si on l'était d'ailleurs, même déjà en étant présent physiquement en Ukraine, se pose la question de la co-belligérance. Et on sait que c'est Moscou qui utilise cet argument-là pour dire ou affirmer qu'il ciblerait les soldats européens qui seraient présents.
Marie Mollet.
Juste très rapidement, et la difficulté, c'est qu'un certain nombre de pays européens attendent comme préalable le soutien et l'engagement des États-Unis d'une façon ou d'une autre pour, en tout cas, sur le principe, être d'accord pour participer à cette force de réassurance. Je pense à l'Italie notamment qui dit non, en tout cas, pas d'envoi de troupes italiennes sans soutien américain. Donc en fait, c'est là où on est un petit peu dans cette difficulté où le serpent se mord la queue.
C'est aussi votre avis, Patrick Martin-Genier ?
Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de choses ce soir, mais naturellement des garanties de sécurité. Mais même Vladimir Poutine a dit qu'il souhaitait lui-même des garanties de sécurité. Alors, on est dans la plus grande incertitude. Comme vient de le dire Madame là récemment, enfin tout de suite, elle a dit que Madame Meloni, Madame Meloni ne souhaitait pas envoyer des troupes sur place s'il n'y avait pas un appui américain. Même Donald Tusk, le Premier ministre polonais, ne souhaite pas envoyer également de troupes. Alors, j'imagine mal que la France seule, voire éventuellement avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, puisse envoyer des troupes.
La fameuse coalition des volontaires.
La coalition des volontaires, on ne sait même pas ce que ça signifie qu'une force de réassurance. Alors, on nous dit que ce seraient éventuellement des forces qui seraient au centre du pays, mais de toute façon, premièrement, même des forces qui seraient au centre ou à l'ouest de l'Ukraine seraient considérées comme des forces combattantes par la Russie s'il n'y a pas d'accord de paix. Le risque serait aussi grand dans l'ouest du pays que sur les forces donc les lignes de front dans le Donbass. Ça, c'est très important. S'agissant également de l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN, j'ai lu les mémoires d'Angela Merkel cet été. Je peux vous dire que dès 2008, elle-même et Nicolas Sarkozy étaient opposés à un chemin d'adhésion à l'OTAN. Donc, ce n'est pas maintenant qu'ils le voudront parce que l'Ukraine est en guerre. Il y a des difficultés territoriales. Donc, pour l'instant, on est dans l'incertitude la plus totale et je n'imagine pas un seul instant que des troupes pourraient être envoyées sur place tant qu'il n'y aura pas un accord de paix définitif qui devra passer de toute façon par un cessez-le-feu provisoire.
Oui, c'est ça. On a fini par oublier le cessez-le-feu, de vous interrompre, mais c'est vrai que comme Donald Trump s'est mis un petit peu sur la ligne de Vladimir Poutine, on ne parle plus de cessez-le-feu alors que c'est quand même l'essentiel.
Non, mais oui, et puis s'agissant du prix Nobel de la paix, c'est devenu une véritable obsession, comme un jouet pour un enfant, pour Donald Trump. Et en réalité, il a dit, en 6 mois, j'ai réglé 6 guerres. Je me demande bien quelle 6 guerres il a réglé, si ce n'est le traité de paix, certes, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est notable. Il est dans l'urgence, parce que le prix Nobel de la paix, c'est au mois de septembre, et il veut absolument un deal. Enfin, on dit que Volodymyr Zelensky n'a pas été humilié, certes, il y a tout de même une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où Donald Trump a positionné le président ukrainien devant une carte de l'Ukraine très clairement pour lui signifier qu'il n'y aurait pas de deal tant qu'il n'y aurait pas de négociation territoriale. Et c'est bien cela dont il s'agit aujourd'hui. On a beaucoup parlé des garanties de sécurité. Plus d'une 20aine de fois, cette expression a été employée hier à la Maison-Blanche. Mais à aucun moment, parce que personne ne le veut et parce que Volodymyr Zelensky n'est pas en situation politique de l'accepter, on n'a pas parlé un seul instant de concession territoriale. Et c'est ça, aujourd'hui, la difficulté. Il n'y aura pas de guerre. Il y aura une vassalisation de l'Ukraine, car la Russie progresse tant qu'il n'y aura pas de négociation territoriale. Je ne me prononce pas sur l'opportunité. Je dis simplement que c'est ce que veut Donald Trump. C'est ce qu'entend gagner également Vladimir Poutine. Il veut la reddition dans le Donetsk et à Lugansk, dans le Donbass, en contrepartie de l'arrêt éventuel de l'avancée des troupes à Kherson et à Zaporijja. Et tout ça, pour l'instant, on ne le sait pas, parce que tout simplement, le président ukrainien, politiquement, ne peut l'accepter.
Patrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Mais écoutez, j'ai 2 questions, une diplomatique sur la diplomatie et une sur le terrain. La première rejoint un petit peu ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire qu'il y a une réunion tripartite qui est prévue, entre Zelensky, Poutine et Trump.
Qui est envisagée, hein.
Voilà. Oui, enfin, bon.
Elle est dans les limbes encore, on va dire.
Voilà. Oui, et justement, ça pose problème parce que, ce qui va se passer très probablement, c'est que Zelensky va se retrouver face à un criminel et face à un complice de criminel. Donc, il va être seul. Et je vais mettre des crochets, des guillemets, des parenthèses, mais excusez-moi, mais ça ressemble à ce qu'on appelle, de la part de Poutine, tendre un piège à con. Tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà.
Donc,
deuxièmement, ma question, ce serait aussi sur le terrain, qu'en est-il maintenant des armées de Kadyrov, dont on a longtemps parlé, on n'en entend plus parler, et puis aussi peut-être éventuellement les armées de Loukachenko.
Bon, une question, celle-là, les armées de Kadyrov et de Loukachenko, peut-être Guillaume Lasconjarias.
Alors, je ne suis pas spécialiste des armées russes. Alors, on sait que les Tchétchènes sont toujours présents, mais c'est plutôt comme des unités de deuxième ou de troisième échelon, c'est-à-dire des unités qui servent à occuper le terrain, qui servent à libérer de l'espace. Il faut savoir que ces troupes-là ont subi énormément de revers, énormément de pertes, comme la totalité, finalement, des armées russes. Revenir, en revanche, sur les armées l'armée biélorusse, ce qui est important, c'est que Loukachenko, jusqu'à présent, a toujours fait le plus grand soin de se tenir dans une position où il n'est pas directement impliqué sur le terrain. Donc, c'est en revanche intéressant à suivre, parce que au mois de septembre, on aura un grand exercice militaire qui se tient tous les 4 ans, l'exercice Zapad, qui se tiendra justement en Biélorussie, et où les Russes et les Biélorusses coopèrent ensemble sur justement des opérations militaires très souvent, je rappelle, qui sont destinées en fait un peu à faire peur à l'Occident. Un exemple, en 2009, l'exercice Zapad s'était terminé avec une frappe nucléaire simulée, bien évidemment, sur Varsovie.
Oui, d'accord. Cédric Mas, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, alors pour compléter ce que disait Guillaume, donc en effet, les Tchétchènes ne sont plus qu'en soutien, et notamment aussi pour maintenir l'ordre dans les territoires occupés, où ils se sont déjà signalés par pas mal de crimes et d'exactions. Il faut signaler, donc, les forces biélorusses n'ont pas nécessairement beaucoup de capacités conventionnelles, et donc l'intérêt de les garder, j'allais dire comme les Britanniques disent, in being, c'est-à-dire simplement existantes pour laisser peser une menace, et donc obliger les Ukrainiens à mobiliser des forces sur la frontière nord. Et également, c'est une armée qui a été construite en complément de l'armée russe, avec notamment beaucoup d'unités de guerre électronique, de radars, bon, évidemment pas des derniers cris, mais beaucoup d'unités logistiques, du train également, qui ont beaucoup servi l'armée russe lorsqu'elle est passée par le Bélarus pour envahir et pour essayer de foncer sur Kiev. Enfin, vous avez pas mal de travailleurs nord-coréens maintenant, mais plus trop de forces nord-coréennes. Elles ont laissé leur matériel, Israël, en revanche, mais là aussi, les pertes ont été si importantes que les premiers échelons qui ont été envoyés ne se sont pas maintenus. Il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui, enfin de plus en plus, hein, on n'a pas évidemment les proportions précises et exactes, hein, puisque tout ça est noyé dans le brouillard de la guerre et confidentiel, on a de plus en plus de travailleurs étrangers qui sont raflés hein, pour être envoyés sur le front pour compléter des unités qui mènent des opérations en suivant des tactiques qui sont très coûteuses en vie humaine, mais qui produisent des effets très longs face à un adversaire ukrainien qui a de plus en plus de mal à trouver la solution parce qu'il y a aussi un problème de commandement ukrainien aujourd'hui avec beaucoup de critiques, beaucoup de contestations internes de gens qui, je le répète, ne sont pas contre le conflit mais veulent se battre différemment et avoir au moins une chance de gagner alors qu'aujourd'hui les tactiques employées, les ordres donnés par le commandement ukrainien n'offrent pas d'autre possibilité que de colmater et de disperser les unités, de les morceler et puis de subir la pression russe en attendant on ne sait pas quoi.
Il y avait Patrice qui disait tout à l'heure, est-ce que c'est une réunion tripartite, ce serait un piège pour Volodymyr Zelensky? Qu'en pensez-vous, Patrick Martin-Genier?
Non, je ne pense pas que ce soit un piège. Il a énormément de courage, le président ukrainien, de se rendre à cette négociation, parce que normalement, au terme de la Constitution, un chef d'État ne peut pas rentrer en discussion avec Vladimir Poutine, c'est inscrit. Et donc, oui, c'est pas forcément un piège, il va pouvoir se défendre. Je pense qu'il a suffisamment de courage, suffisamment de compétences, de conseillers qui peuvent le conseiller et l'accompagner. Évidemment, le risque, c'est qu'il soit sous la pression de Donald Trump, et ça, c'est quelque chose à quoi il devra résister, mais je pense qu'il en est capable. En tout cas, c'est bien cette réunion tripartite sur laquelle qui pourrait déboucher, à condition, comme l'a dit Steve Witkoff et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est ça la difficulté aujourd'hui, et c'est ce qui devrait sortir d'éventuelles négociations de paix.
Mais justement, quelles concessions territoriales peut faire l'Ukraine, alors qu'il n'est pas question pour l'Ukraine de toucher au Donbass, par exemple, alors que, qui est la région dans laquelle l'Ukraine a perdu le plus de soldats?
Oui. Absolument. Le Donetsk et Lugansk, bien que l'Ukraine maîtrise encore certaines villes telles que Sloviansk et Kramatorsk, c'est le grand défi de Volodymyr Zelensky qui, politiquement et constitutionnellement, ne peut accepter aucune concession.
Oui, il n'a pas le droit, c'est dans la Constitution, vous avez raison de le dire.
Oui, parce que un État, c'est un territoire, c'est un peuple. Demain, en faisant des cessions territoriales, il y aurait plusieurs peuples, un qui serait russophone, l'autre ukrainien. Donc ça passerait certainement par une modification de la Constitution, par un référendum et très certainement par une nouvelle élection présidentielle. Mais en tout cas, il serait dans de grandes difficultés politiques. La question est de savoir, est-ce qu'il peut vendre à sa classe politique et au peuple ukrainien une éventuelle cession de territoire?
Marie Mollet.
Et toute la position, en tout cas, des Européens derrière Kiev, c'est évidemment de dire pas d'annexion, parce que l'annexion est contraire, toute annexion est contraire au droit international. Donc,
le respect du droit international.
Oui, respect du droit international, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il est hors de question de céder à la Russie des territoires qu'elle ne contrôle pas. Et c'est le cas dans un certain nombre, y compris des deux oblasts qu'elle vise dans le Donbass. Deuxième point. Troisième point, quelle forme, y compris d'un point de vue juridique, pourrait être imaginée pour céder des territoires à la Russie qui permettrait une contrepartie, etc. Donc c'est ça la réflexion, même si les Européens et Emmanuel Macron notamment, dans leurs expressions publiques, ne répondent pas à cette question, parce qu'ils estiment que c'est une question qui doit être qui est une question ukrainienne et que la discussion sur les territoires ukrainiens doit être menée par Volodymyr Zelensky. Mais donc effectivement, c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit hier, c'est que cette question n'avait pas été abordée, en tout cas entre les leaders européens et Donald Trump. On peut imaginer, selon toute vraisemblance, que ce sujet a été abordé dans la bilatérale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On ne sait pas ce qui s'est dit sur ce sujet-là, mais bien évidemment que c'est le cœur du sujet.
On est au cœur du sujet. Oui. Cédric Mas, quelle concession territoriale peut faire l'Ukraine ?
Écoutez, elle n'en veut aucune aujourd'hui. Bah oui. Si vous réfléchissez, chaque jour à 9h, il y a une minute de silence en l'honneur des guerres, des morts du conflit en cours. Il y a très peu de familles qui ne sont pas endeuillées par des morts, par des blessés graves, etc. Donc ça serait un reniement complet, donc ça serait très difficile. En plus, vous avez beaucoup de civils ukrainiens qui vivent dans ces régions qui ont fui les crimes, souvent après l'invasion, donc après avoir pu goûter de ce qu'était l'occupation russe. Et donc, ces gens gens-là, ils souhaitent revenir chez eux également. Enfin, alors on a parlé de la constitution ukrainienne, mais je vous rappelle qu'il y a un article 5, on va parler d'un autre article 5 ce soir, de la constitution française, qui oblige aussi le président de la République à garantir l'intégrité du territoire. Et donc, notre constitution non plus n'autorise pas le président de la République à concéder sans référendum, notamment, par exemple, voilà, des territoires à un autre État qui nous envahirait. Donc, je veux dire, il n'y a pas qu'en Ukraine, c'est
tout à fait
logique.
Mais quel modèle d'échange, c'est ça qu'on ne comprend pas, en fait. Écoutez, toute la question si ce soir, les garanties, c'est une chose, mais quelle monnaie d'échange ?
Si vous voulez une paix durable, ce n'est pas des garanties, ce n'est pas des concessions, c'est la défaite militaire de la Russie.
Oui.
Voilà. Or, aujourd'hui, sans les États-Unis, on ne peut pas, et sans une réforme profonde du commandement ukrainien, on ne peut pas l'obtenir. Or, les États-Unis nous font défaut, et le commandement ukrainien ne se réforme pas suffisamment vite, et voire même pas du tout. Donc on est dans une impasse aujourd'hui. Mais la sortie de l'impasse, elle est très simple. La défaite militaire de Poutine signerait la réouverture du champ des possibles d'une ère de paix en Europe. C'est la seule possibilité, il n'y a pas d'autre chemin. Tout autre concession à Vladimir
Poutine... On n'en prend pas le chemin pour l'instant.
Eh bien oui, mais alors il faut se donner les moyens de pouvoir permettre aux Ukrainiens et au reste de l'Europe de l'emprunter le plus rapidement possible, donc réarmer pour pouvoir se passer des États-Unis et donc faire cet effort dont on a parlé pas plus tard qu'au mois de juillet. Je vous rappelle quels étaient les discours de l'ancien chef d'état-major des armées, du président de la République, qui ont été très clairs là-dessus. Il y a un effort financier très important. Nous sommes trop dévêtus, nous sommes trop désarmés, nous sommes devenus trop dépendants des États-Unis et les États-Unis nous font défaut aujourd'hui. Eh bien, comment on fait ? Voilà. Donc, soit on continue à offrir des proies à quelqu'un qui ne vit que par la guerre. Vladimir Poutine n'est parvenu au pouvoir que grâce à une guerre, une fausse guerre, une guerre qu'il a déclenchée en manipulant les opinions à l'époque. Et ça continue aujourd'hui. Vous croyez que pas les concessions territoriales de l'Ukraine, quel que soit le nombre de garanties de sécurité, calmeront un Vladimir Poutine qui parle déjà des États baltes, qui parle déjà de la Finlande, qui est à nouveau présenté comme un État nazi. Voilà, on sait déjà quelles sont les étapes suivantes, on le sait, donc je veux dire, arrêtons de nous cacher le petit doigt, il y a un seul chemin, tout le reste, ce sont des solutions de pis-aller, des solutions de court terme qui n'offriront aucune paix durable.
Un seul chemin, Patrick Martin-Genier ?
Oui, écoutez, les juristes sont très ingénieux. Il y a un précédent, même si certains ne sont pas d'accord, c'est le précédent chypriote. Ça fait 50 ans que Chypre, la partie nord, est occupée par la Turquie. Ça n'a pas empêché la partie occidentale d'adhérer à l'Union européenne avec toutes les garanties de sécurité. Et je pense que ce serait, si on devait se mettre d'accord sur les territoires, ce serait une fiction juridique. C'est-à-dire que le président ukrainien jamais ne reconnaîtrait quelques cessions que ce soit en droit, mais de fait, eh bien, les lignes pourraient être gelées. De fait, on sait très bien par ailleurs que la Crimée, dont on n'a pas parlé, ne reviendra jamais à l'Ukraine.
On peut imaginer, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, un gel de la ligne de front et conclure une espèce de paix à la coréenne, si j'ose dire, Cédric Masse, par exemple.
Alors, ça fait juste 10 ans que les lignes de front avaient été gelées, je vous rappelle, depuis 2014, parce que le conflit a commencé en 2014.
Dans le Donbass.
Et pour autant, ça ne s'est pas arrêté. La situation en Corée du Nord et Corée du Sud n'a rien à voir. Il y avait les deux superpuissances qui étaient derrière, avec la Chine notamment, qui se sont mises d'accord. Et alors, comparé avec la situation chypriote, alors là, pour le coup, ça n'a absolument pas à voir. L'époque n'était pas la même. Et surtout, il y avait, par exemple, l'intégration de la Turquie dans l'OTAN. Donc, on veut que la Russie rentre dans l'OTAN ? Enfin, ça n'est absolument pas comparable. Voilà, c'est tout. Après, on peut gloser pendant des heures sur des solutions qui seront que des pis-aller. Mais vous savez, c'est pas la seule situation dans laquelle on choisit les pis-aller et le court terme plutôt que d'affronter les problèmes.
Marie Mollet, pour conclure, on est vraiment à un tournant ou pas ?
Mais c'est très difficile à dire, en fait, c'est la suite des événements. En tout cas, on peut banaliser et dire que les images ne servent à rien. Il valait mieux, en tout cas, opposer des images d'unité au sommet de l'Alaska. Donc c'est quand même un début, cette unité des Européens, cette unité transatlantique, et on verra la suite.
Voilà, c'est un espoir ténu, mais c'est un espoir. Oui. Merci Marie Mollet pour cette note optimiste à la fin de ce téléphone sonne.